Le journal avec MCM, présenté par Antoine Samoyo.
Bonjour Antoine, et on commence par les titres de l'actualité.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Les élus sont rassemblés depuis ce matin pour une nouvelle séance de la session budgétaire. Un dossier brûlant à l'ordre du jour, c'est la proposition de création d'une commission d'enquête sur les réformes du gouvernement. Édouard Fritsch dénonce une manœuvre dilatoire, l'opposition demande plus de transparence. Les patrons inquiets pour l'avenir de la défiscalisation. Après la présentation du budget outre-mer pour l'année 2016, le représentant du MEDEF, de la CGPME et de la CCS ont dénoncé hier l'absence de visibilité pour ce dispositif au-delà de 2018. Vous les entendrez dans ce journal. Enfin, nous parlerons développement numérique dans cette édition avec le lancement ce matin du Lab Tahiti, une pépinière digitale pour les startups polynésiennes. À tout de suite.
On démarre avec l'actualité politique à l'Assemblée.
Troisième séance de la session budgétaire ce matin à Talhoy. 8 dossiers sont présentés aux représentants et le premier d'entre eux est le plus sensible. Il s'agit de la proposition de création d'une commission d'enquête sur la réforme fiscale, la fiscalité communale et le financement de la protection sociale généralisée. C'est le Tahoy A qui a déposé cette délibération officiellement pour obtenir davantage d'informations sur les réformes du gouvernement Fritsch. La majorité dénonce une manœuvre politicienne et dilatoire pour empêcher les réformes du gouvernement. Le problème, vous le savez, c'est que la majorité d'Edouard Fritsch n'est pas absolue à l'Assemblée. Tout dépendra donc du vote de l'UPLD sur ce texte. L'UPLD qui joue sa partie et qui avait déjà voté avec le Tahoy A en commission pour demander également plus de transparence au gouvernement sur ces réformes. Pour l'heure, les élus ne se sont pas encore prononcés sur cette commission d'enquête. Le dossier a été décalé dans l'ordre du jour et il doit être débattu en ce moment même.
On parle économie à présent avec les patrons du Fénois qui s'inquiètent pour la défiscalisation.
Mais ça n'est pas la première fois que les représentants du patronat craignent de voir disparaître le dispositif d'incitation fiscale à l'investissement en Polynésie. Mais cette fois-ci, ils réagissent à l'annonce du budget 2016 pour l'outre-mer. Un budget qui sécurise la défiscalisation jusqu'en 2018, mais pas jusqu'en 2025, comme le demandaient les patrons. Hier après-midi, le MEDEF, la CGPME et la CCISM ont organisé une conférence de presse commune. Ils se sont dit étonnés de ne pas avoir plus de garanties de l'État sur la défiscalisation. Écoutez le patron du MEDEF de Polynésie, Olivier Cressman. Il s'inquiète à propos d'un article du projet de loi de finances qui parle pourtant d'extinction de certains régimes d'aide à l'investissement.
Et beaucoup plus inquiétant, c'est une phrase dans ce texte qui laisse parler d'extinction des projets d'aide fiscale sur Outre-mer. Donc là, c'est beaucoup plus inquiétant parce qu'on nous a toujours parlé de réfléchir à autre chose pour remplacer. Là, on parle d'extinction, mais on n'a rien du tout en face.
Les représentants des entreprises avaient fait la proposition de mettre en place un fonds pacifique pour remplacer la défiscalisation. Pour les patrons, il faut à tout prix préserver cette aide qui est un outil de rattrapage économique, je cite. Ils s'interrogent aujourd'hui sur le désengagement de l'État.
Nous avons rencontré des gens à Matignon, nous avons rencontré les gens à l'Élysée. Le message était très clair, démonstration très évidente. Nous sommes sur des territoires petits qui ont besoin d'un soutien et la défiscalisation est un outil de garantie pour les banques de bonne fin financière des projets. Visiblement, on ne parle pas la même chose et pourtant, l'économie et le social dans notre région doivent être aidés, doivent être soutenus. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi l'État français reste tellement en retrait. C'est très simple, on proroge le dispositif jusqu'à 2025. C'est une décision du président de la République et c'est la démarche que nous attendons de la part de politiques locaux de porter cette voix auprès du président, de simplement proroger ce dispositif. Il n'y a que ça à faire. On réfléchit en même temps, mais on proroge.
Olivier Cressman qui était interrogé par Valentine Bluet.
On parlait également antenne relais ce matin au CESC.
Le Conseil économique, social et culturel se réunissait pour rendre un avis sur la proposition de loi de pays d'Antonio Pérez visant à protéger les populations en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques. Les membres du CESC ont pourtant rendu un avis défavorable car certaines dispositions n'étaient pas cohérentes selon eux. Il s'agit notamment de l'interdiction d'implanter des antennes relais à moins de 300 mètres des zones sensibles comme les crèches ou les écoles. Il ressort en effet des consultations déconseillées que plus les antennes seront éloignées et plus le débit devra être augmenté pour une meilleure réception. Ce n'est donc pas une solution pour les conseillers du CESC. Le Conseil économique, social et culturel qui reste pourtant satisfait du reste de la proposition. Antonio Pérez s'est dit déçu par cet avis défavorable, mais il reste prêt à faire des modifications nécessaires.
Et à 12h05, on marque une courte pause dans ce journal. La suite, un instant.
Radio 1.
premier sur l'info.
On reprend avec la visite du haut commissaire à Hitia Otera hier matin.
Lionel Beffre a passé la matinée d'hier à parcourir la commune de la côte est de Tahiti. L'occasion pour l'État Vana et le représentant de l'État de parler de la potabilisation de l'eau, de la caserne des pompiers, du plan d'évacuation en cas de rupture d'un barrage et surtout d'aborder le sujet politique très cher au Tavana de Hitia, Jacky Drolet, la défusion de la commune. Alors pour Jacky Drolet, l'argumentaire est tout trouvé. La situation budgétaire catastrophique dans laquelle se trouve actuellement Hitia Otera n'est pas de son fait. Selon lui, les Tavana des communes associées de Bapeno, Tiarei, Mahaina ou Hitia ne dépendaient que du bon vouloir du maire de la commune de Hitia Otera, Henri Flore, sous la dernière mandature. Aujourd'hui, même avec le maire UPLD Dauphin Domingo, il propose de prévoir une répartition des crédits sur les communes associées sans tenir compte de la couleur politique du Tavana. Quant à savoir si la population de la commune va suivre ce processus, Jacky Drolet se dit confiant.
Pour ce qui concerne Hitia, 60% de la population a dit oui. Maintenant, les élus qui ont adopté les deux délibérations de juillet 2014 et août 2015 l'ont fait, me semble-t-il, en responsabilité. Maintenant, c'est à eux de voir avec leurs propres électeurs où ils se situent par rapport à ce sujet. Nous avons tous raison d'attendre le travail qui sera fait sur le terrain pour savoir quel type de répartition financière il y aura, quel type d'investissement, comment les choses se poseront. Nous avons posé un principe, à savoir que cette diffusion, quand elle aura lieu, devra se faire en équilibre sur les quatre nouvelles communes créées. Par exemple, si à l'heure actuelle une des communes bénéficie d'un financement important, notamment Papeno avec les barrages et les investissements, qu'on trouve l'astuce pour qu'un financement réparti sur les quatre nouvelles communes se fasse à partir de ce que nous avons hébergé chez nous et notamment des barrages hydroélectriques.
Le commissaire parlait de seuil critique concernant les communes.
C'est un peu bizarre. L'État qui crée des communes avec des tailles critiques encore plus faibles que celles que nous pouvons avoir ici à Hitia Otera prend justement cet argument pour dire qu'on ne peut pas créer une commune. Donc je lui ai gentiment expliqué qu'il s'agissait d'une turpitude, ce qu'il n'a peut-être pas admis.
Et sur les critiques adressées aux administrateurs de l'État, réponse du tac au tac du haut-commissaire Lionel Beffre à Jacky Drolet, vous rejoignez les critiques de Monsieur Floss et c'est un étonnement pour moi. Plus sérieusement, sur la défusion de la commune de Hitia Otera, le haut-commissaire campe sur la position qu'il avait donnée à Radio 1 lors du dernier congrès des maires. Il craint que cette solution ne fragilise les petites communes sur le plan budgétaire. Mais la procédure est bel et bien en marche et elle devrait prendre encore un an pour le représentant de l'État.
Moi, ma crainte, elle est que ça ne fragilise une commune qui est déjà fragilisée par des difficultés financières. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est un argument fort qui ne peut pas être un argument de tous les temps, parce que c'est aujourd'hui que la commune a des difficultés. Mais en même temps, le redressement, il ne va pas se faire en deux mois.
Hein. Mais en tout cas, vous n'allez pas faire traîner la mise en place de la commission.
Aucune raison de faire traîner. Simplement, j'ai indiqué aussi qu'il fallait qu'on soit à chaque étape bien bordé juridiquement, parce que c'est une procédure qui est lourde, mais qui peut susciter des recours. Et moi, je veux qu'on soit certain, à chaque étape, d'être dans le droit. Donc, il n'y a pas de raison de faire traîner, mais en même temps, il faut qu'on soit rigoureux sur l'avancée de la procédure.
Mais ça peut prendre combien de temps jusqu'à ce que ce dossier arrive en Conseil des ministres et au niveau de l'Assemblée de la Polynésie?
Ça peut prendre au moins un an, parce qu'il faut quand même, encore une fois, que chacun se prononce. Le Conseil des ministres, moi, je ne fixe pas l'ordre du jour. Si on était amené à consulter l'Assemblée de Polynésie, je ne fixe pas l'ordre du jour. Je ne suis pas non plus responsable des décisions qui sont prises. Donc voilà, il y a quand même aujourd'hui une série d'incertitudes, une série d'inconnus qu'il faut intégrer au raisonnement. C'est pour ça que je ne peux pas vous dire, voilà, dans trois mois c'est fini, comme je ne peux pas vous dire que ce sera dans un an. Parce que, encore une fois, ensuite, dès lors qu'on consulte les uns ou les autres, chacun est maître de ses propres procédures.
Lionel Beffre et Jacky Drolet qui étaient interrogés par Vaïté Ourali Pambrun.
On termine pour parler numérique avec l'ouverture d'un espace collaboratif de projets numériques.
Le Lab Tahiti a ouvert ses portes ce matin aux startups de Polynésie. À l'initiative et à la tête de cette structure, on retrouve Guillaume Proya, déjà connu en Polynésie pour l'organisation des matinées de l'e-business. Mais le Lab Tahiti est aussi soutenu par les partenaires institutionnels comme la DGEN ou l'Organisation des professionnels de l'économie numérique. Le Lab Tahiti qui souhaite se placer au cœur d'un nouvel écosystème dédié au digital avec pour vocation le développement de cette économie numérique qui accuse sur le territoire un certain retard. On écoute Guillaume Proya au micro de Cédric Valax.
Le Lab est une association loi 1901 qui cherche à accompagner les porteurs de projets dans le domaine du digital, du numérique, favoriser leurs projets et leur permettre de s'émanciper sur le marché polynésien comme sur d'autres marchés. C'est les accompagner autour d'experts, qu'ils soient experts d'un point de vue financier, marketing ou technique, et leur fournir un espace collaboratif où ils vont pouvoir faire maturer leur projet. Il faut que la Polynésie, dans ce domaine-là, se pense, pas se repense, se pense complètement. Le digital n'est pas une option pour la Polynésie française. Le digital, le numérique est une vraie opportunité de développement et le pays doit intégrer ce format, ce type de structure, ce type d'entreprise qui sont les nouvelles entreprises pour le développement de la Polynésie française.
Et à raison de 25 000 francs mensuels, le Lab Tahiti se propose d'accueillir dans ses locaux de la rue Gauguin les porteurs de projets qui seront accompagnés jusqu'à maturité. Un accompagnement de 6 à 24 mois selon la nature du projet. Mais attention, avoir une idée ne suffira pas. Il faudra encore pouvoir la défendre devant une commission études et développement. L'idée là encore est de soutenir uniquement les projets les plus viables.
Les porteurs de projets vont devoir remplir un dossier, effectivement, pour faire connaître leur projet et qu'on puisse valider un certain nombre de choses, notamment leur modèle économique, leur façon d'appréhender leur entreprise. Et c'est important parce que cette commission, on a un petit espace aujourd'hui, on ne peut pas prendre tout le monde. On a 10 à 15 porteurs de projets qu'on peut mettre dans le lab. Et donc du coup, on va devoir sélectionner peut-être ceux qui auraient le plus de capacité à se développer.
Et pour contacter le Lab Tahiti, c'est très simple, rendez-vous sur le site internet www.lab.pf. Il est 12h12.